Bonjour Julien, c'est l'heure du festival What a Trip à Montpellier que j'ai découvert ton sujet d'exposition dans le château de Castries. Donc ton expo photo, itinérance lozérienne, retrace en images le souvenir d'un voyage lent de Montpellier aux Cévennes, des photos de la Lozère qui sont un hommage à la lenteur, au paysage. Tu as fait le choix du voyage slow, de voyages plus lents et sans kérosène. Peux-tu nous dire si tu as toujours été dans cette démarche ou comment cette envie de vivre les voyages avec une conscience plus écologique s'est installée dans ta façon de voyager?
Alors, pas du tout. Avant, je ne voyageais pas du tout comme ça. Ça doit avoir, il y a peut-être 3 ans, ça à peu près. On m'a offert un bouquin qui s'appelle L'usage du monde de Nicolas Bouvier, okay, qui est un écrivain voyageur français des années 50. Qui part jusqu'au Moyen-Orient avec une vieille Fiat qui traverse monts et merveilles, malheur et bonheur. Enfin, c'est même pas un voyage, c'est une aventure, quoi. Donc ça a semé quelques graines en moi. Et après, j'ai commencé à me sensibiliser à tout ce qui était écologie. J'ai commencé à prendre conscience de pas mal de choses qui sont pas super joyeuses qui sont en train de se passer. Changement climatique et puis surtout des dépendances au pétrole. Et du coup, tout ça, ça a fait un cocktail un peu comme ça dans mon cerveau. Et j'ai commencé à réfléchir à ma manière de voyager. Et je me suis dit, l'avion que je prenais beaucoup avant, c'est pas jojo. Et puis au final, on voit rien, on passe d'un point à l'autre, on n'a pas vraiment le temps de se saisir du trajet, quoi. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de faire différemment. Et comme j'aimais déjà la randonnée, puisque ma manière de voyager c'est plus lente, c'est plutôt la marche, j'ai commencé à avoir l'idée de partir de chez moi à pied. C'est la première fois que j'ai testé ce genre de configuration. Et après le premier confinement, où j'ai eu le temps de méditer tout ça, j'ai claqué la porte de mon appart à Montpellier et je suis parti à pied directement et je suis monté jusque dans les Cévennes sans vraiment avoir de trajet précis. Et ça a été la première fois que j'ai testé ce type de déplacement. C'était avant l'expo, hein. Le voyage de l'expo s'est fait plus tard. Mais ça a été la consécration pour moi et je me suis rendu compte que j'ai mis 2 jours à atteindre une ville qu'en voiture on met 1 heure. Et j'ai fait un énorme parallèle, j'ai fait waouh, c'est dingue, le pétrole c'est magique et en même temps on voit rien. Et là à pied, j'ai revu un trajet que je connais par cœur, Montpellier-Ganges. Et ça a vraiment eu un effet sur moi. Je me suis dit waouh, tout ce que j'ai pas vu, tout ce qu'on voit, les sensations, etc. etc. Donc après ça, j'ai dit je recommencerai, quoi. Donc j'ai recommencé pour la Lozère à l'automne de la même année, donc c'était en 2020. Pour l'instant, j'ai fait ces deux petits voyages qui durent à chaque fois que quelques jours. Et spirituellement, au niveau des sensations, des souvenirs aussi, c'est très différent. Bon, je me rappelle de plein de choses qu'on se rappelle pas quand on voyage en voiture, en avion, même en train, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots comment tu voyageais avant, avec le recul? Est-ce qu'il y a des aspects dans cette ancienne façon de voyager qui te manquent?
Eh ben avant, souvent, je prenais l'avion, du coup, parce que c'est pas mal, hein, on peut aller à plein d'endroits. J'aurais tendance à partir entre 10 jours et 3 semaines, en moyenne 15 jours, parce que je travaillais, les congés, tout ça. Et souvent, j'avais envie de maximiser mon séjour. Donc il fallait que je voie le plus de choses, il fallait que je rentabilise le séjour. Donc il fallait pas qu'il y ait une journée temps mort, parce que sinon, oh mince, j'ai perdu une journée, catastrophe. Et puis s'il pleut aussi, et je suis en Islande, il pleut, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Aïe, une journée perdue. Donc il y avait un aspect assez un peu consumériste, même très consumériste du voyage, enfin plutôt du tourisme d'ailleurs. C'était, Puis les gens, quand on rentre, ils nous disent « Alors, t'as vu quoi ?» Et on dirait qu'il y a un palmarès de trucs à voir, quoi. Voilà, mais que le reste ne compte pas.
Check.
Ça, c'est fait. Et au final, avec le recul, il y a des endroits comme ça où j'ai regretté parce que je suis passé à la va-vite, quoi. J'ai vu quelques machins, puis après, je suis passé à autre chose et on ne prend pas le temps de s'imprégner. Donc, je dis pas que tout est ajouté, loin de là, mais c'était une manière quand même très conventionnelle de voyager, en fait. Et au final, aujourd'hui, je dirais peut-être que j'ai fait le choix de plus prendre l'avion. Il faut jamais dire jamais, mais en tout cas pour l'instant je ne le prends plus. Et ce qui pourrait me manquer, c'est la facilité d'accès à certaines cultures lointaines, pays lointains, que si on veut y aller sans avion, c'est faisable, mais il faut avoir beaucoup de temps.
C'est ça.
Voilà. Pour l'instant j'ai fait un peu une croix là-dessus.
Ouais.
Mais bon, on peut imaginer quelques folies du type partir en Chine ou en Amérique du Sud sans recourir à l'avion, c'est faisable. Hein. C'est juste qu'il faut un bon mois ou deux, quoi, si on veut prendre notre temps.
Oui, ou alors voyager de façon plus modérée, peut-être pas plusieurs vols par an, mais s'offrir un long courrier tous les 5 ans.
J'avoue que j'ai eu mon crédit long courrier, là, ça va, quoi. Là, j'avoue que j'arrive plus à prendre l'avion. Je pense que c'est ma conscience écolo, là, qui, pour l'instant, me bloque là-dessus. Donc, si je peux éviter au maximum, ou alors c'est pour un impératif particulier, mais qui ne soit pas mon plaisir personnel, quoi.
Ça se révèle pas, au final, être un besoin.
Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et il y a un truc que j'ai pas dit au début, dans la première question, mais dans la foulée de tout ça, je me suis passé de ma voiture, je me suis mis au vélo.
Ah ouais.
Bon, j'habite en ville, c'est facile de ne pas avoir de voiture. Mais du coup, pareil, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus aller où je voulais, quand je voulais. C'était le cas avec une voiture. Mais qu'en fait, ça va. Du coup, j'allais peut-être moins souvent, mais j'en profitais plus ou je l'étalais plus dans la longueur. Ouais. Donc, il y a tout un rapport au temps et à savourer ce qu'on a qui est très différent, en fait. Trop de possibilités d'aller partout quand on veut, en fait, ça, je pense que ça gâche un peu le... On se dit, bon, c'est pas grave, on reviendra.
Ouais.
Alors, quand on peut y aller qu'une fois ou en prenant le temps, là on s'avance.
Et donc aujourd'hui, quelle est ta vision du voyage, ton état d'esprit pour partir en vacances?
Alors du coup, ce qui est bien avec ce genre d'approche, c'est qu'on n'a pas grand-chose à réserver en général quand on part marcher. Sauf si on veut aller dormir en Égypte ou quoi, mais on peut vraiment partir en pète au casque. Allez, je me casse, je vais marcher 3-4 jours, 5 jours, j'en sais rien. Donc c'est un état d'esprit très dans le... Je planifie pas trop, le moins possible. J'ai beaucoup trop planifié mes vacances avant. Là, en général, je prenais ma carte et puis on va aller par là. Et puis demain, on verra où j'irai le lendemain, etc. Donc c'est plutôt... Et j'essaye d'être au maximum dans le lâcher prise, en fait.
L'impro.
Dans l'impro. Pas tout improvisé, mais non. Minimum. Voilà, cet été, par exemple, quand j'étais en Italie, je suis rentré en train. On achetait les billets de la correspondance suivante dans chaque gare. Quoi. Puis comme ça, si elles m'ont raté le train, on prenait les billets suivants. Enfin, tout était au fil de l'eau. Quoi. Donc c'est plutôt cet état d'esprit et surtout plus de lenteur, plus le temps de s'immerger quelque part. Pas de course et essayer d'éviter les impératifs du type « là, ce soir, je dois être là ». Parce que ça peut vraiment gâcher une journée, en fait, j'ai l'impression. Voilà, donc on est plus dans le laisser-aller.
Ouais. Et donc en termes de budget, d'organisation, ce voyage slow, ça te semble compliqué? Est-ce que c'est difficilement accessible?
Alors, ça dépend de quel type. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt fait de la randonnée, donc il y a d'autres manières de voyager. Donc je peux plutôt parler pour ce sujet-là. Pour la rando, c'est plutôt une question de préparation, d'être prêt, d'avoir un peu d'expérience, de marcher, d'avoir du matériel. Le matériel, c'est un peu cher, mais au final, si on cumule du matériel, c'est pas plus cher qu'un Paris-Rio. Hein. Bon, voilà, je pense. Et puis, ça se garde pendant des années. Une fois qu'on a les équipements, en fait, le budget, il est pas très élevé. Surtout si on veut être le maximum autonome. Et même si on s'arrête de temps en temps manger quelque part, ça reste pas énorme, quoi. Et si on veut dormir sous la tente, c'est gratuit. Donc forcément, par contre, ça demande un peu plus d'un esprit un peu plus prêt. C'est pas hyper sécurisant, forcément, ce type de voyage, parce que tout n'est pas balisé.
Ouais.
Il n'y a pas de petite réservation, tout près, de petit hôtel. Voilà, il n'y a pas de tour opérateur, il n'y a rien de tout ça. C'est un peu l'impro, on prend le temps. Ce soir, on sera peut-être là, mais on n'est pas totalement sûr. Mais au final, moi, je trouve qu'en termes d'orga, une fois qu'on s'est libéré un peu, qu'on a un peu lâché prise, je trouve ça tellement plus tranquille. J'ai pas besoin de réserver un truc 6 mois à l'avance, préparer mes billets, aller 2 heures à l'avance à l'aéroport, stresser de rater telle correspondance. Donc, moi, je trouve ça relaxant, au final.
Ouais, c'est un confort de vie.
C'est un lâcher prise. Mais par contre, je conçois que de prime abord, ça puisse paraître au contraire hyper, hyper aventurier, hyper bizarre, dangereux de partir comme ça, marcher. Les longs voyages lents à pied, je les ai fait seul, mais on n'est pas obligé de le faire seul. Hein. Mais ça peut paraître un peu flippant si on n'est pas habitué à ça. Mmh. Mais c'est un état d'esprit dans lequel il faut se mettre, je pense, avant de. Et une fois qu'on est dans cet état d'esprit, on se dit, mais au final, c'est cool, j'ai pas trop à planifier, j'ai pas trop à réserver de choses à l'avance, je peux improviser. Voilà.
Et donc en termes par exemple de rationnement, tu prévois quand même un petit truc alimentaire, tu calcules un peu avant de partir ce que tu vas manger.
Alors là, ça dépend comment, dans quel état d'esprit on est, si on va être autonome complètement ouais. ou si on décide de se dire qu'on va se ravitailler.
Ouais.
Parce qu'en fait, on peut traverser des villages, on peut traverser des villes, trouver un commerce. Il faut juste faire attention, le dimanche, le lundi, des fois, il n'y a rien d'ouvert. Hein.
Mais, ouais.
Donc moi, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je prenais de la nourriture pour quelques jours, mais je prévoyais
consommation sur place. Quoi.
Voilà, ouais. mon ravitaillement, etc. Ouais. Ça dépend de l'état d'esprit et ça dépend du poids du sac aussi.
Et oui.
Voilà, il faut savoir optimiser. Ça, c'est pas facile effectivement au début, mais on arrête de prendre des trucs hyper lourds. On va pas manger. Si on se place dans l'optique de l'autonomie, on va pas manger des gueuletons à tous les repas. Hein. Ça va ouais. plutôt être de la semoule, des pâtes, voilà. des choses compressibles.
Des fruits secs.
Des fruits secs
tenir ouais. la route quoi.
On tient la route. Après, honnêtement, en randonnée. On a faim, quand on a faim vraiment, ça nous paraît mais alors délicieux, hein, même de la semoule,
Exactement.
Ça passe ouais, tranquille ouais. quoi. Et puis bah des fois on traverse des villages, bon ouais, ouais petit resto, allez,
petite voilà, boulangerie,
ou une petite table, allez pourquoi pas, ça ouais. fait plaisir quoi.
Et pour l'eau, tu pars avec voilà, ton litron et puis tu te ravitailles ou
Alors l'eau c'est un sujet, c'est le sur lequel il faut surtout pas faire n'importe quoi,
ouais.
Selon la saison et la région. Par exemple ici dans l'Hérault, ouais. autour de Montpellier, donc quand j'étais parti de Montpellier, je suis parti en juin, là l'eau j'avais vraiment fait attention. Donc j'avais une gourde à l'époque de 1,5 litre que j'avais rempli au maximum, mais après sur les cartes de randonnée, les top 25 IGN, là, on a toutes les sources qui sont indiquées, les fontaines, les ruisseaux, etc. C'est le truc à un minimum planifier ça. Attention, est-ce que je vais avoir de l'eau sur mon parcours aujourd'hui ouais. Parce que ça peut, voilà, quand il fait chaud, il faut faire attention. Donc il faut partir, je dirais, avec au moins 1 litre, au moins. Et ensuite faire attention aux cours d'eau qu'on traverse, etc. Dans les Cévennes à l'automne, par contre, alors l'eau, il y en avait à foison. Quoi. Donc c'était beaucoup moins un problème parce qu'il y avait des cours d'eau, des ruisseaux, il pleuvait en plus. Donc ça faisait couler encore plus des ruisseaux qui de base sont à peine quasiment secs. Mais ça sert à rien de partir avec 4 litres d'eau parce qu'il ouais. va se casser le dos.
Ouais.
Faut partir au moins avec 1 litre, 1,5 litre, c'est bien. Et ensuite faire attention et se ravitailler et prendre des petites pastilles micro pures si on n'est pas rassuré sur l'eau qu'on va boire,
oui.
si on veut la purifier.
Puis peut-être pas hésiter à toquer chez quelqu'un si jamais.
Aussi. Tout à fait. Il y a des gens qui sont gentils, donnent de l'eau.
Ouais. Ouais.
Et sinon il y a des cimetières apparemment, j'ai jamais testé,
c'est mais vrai.
Il y a plein de robinets dans
c'est
les cimetières.
C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Donc, j'ai récemment visité ton expo photo itinérance lozérienne. Est-ce que c'est le voyage qui t'a amené à la photographie ou l'inverse ?
Eh ben, en fait, la photographie à la base, elle est venue il y a très longtemps et ça n'avait rien à voir avec le voyage. C'était pour photographier les phénomènes météo. Donc, la photographie, elle est arrivée comme ça. Et ensuite, c'est plutôt j'ai eu envie de découvrir des coins et de les immortaliser. Donc le voyage est arrivé après. Peut-être que la photo m'a emmené au voyage, mais c'est vrai que souvent je me disais bon allez je pars là, bon allez je prends mon appareil photo, je vais faire des belles images. Voilà, donc c'est plutôt arrivé comme ça.
Ouais. Et donc dans cette exposition, on découvre des paysages. Qu'est-ce que tu cherches à capter dans ces instants de contemplation de la nature ?
Bonne question. Je sais pas si je sais moi-même.
Ouais.
Non, je sais pas, c'est très beau. Voilà, pour le coup, c'était l'automne, donc j'adore
ouais.
cette saison.
Ouais.
Il y a des lumières très belles, c'est doré, ça a des ambiances vraiment magiques dans les Cévennes. Je pense que c'est une émotion du moment. Je dis waouh, c'est trop beau, je veux garder un souvenir de ça, même si au final le souvenir est dans la tête. Mais je veux garder un souvenir et je veux peut-être pouvoir le partager, le montrer à des gens, dire regarde comme c'est beau. Mais je pense qu'il y a une part d'inconscient en moi qui ne sait pas en fait pourquoi je photographie les choses qui me saute aux yeux comme ça. Je pense que c'est juste que je trouve ça beau en fait.
Ouais.
Voilà.
Un moment que tu as envie de capter, une lumière.
Beaucoup la lumière.
Ouais.
Hein. La lumière, les couleurs. Puis des fois, je photographie pas aussi. Des fois, je regarde. Puis je range mon appareil. Maintenant, je le fais un peu plus ça.
Ouais.
Et puis je garde. Et puis disons, ça sera dans ma tête quoi.
Tu t'imprègnes.
Voilà, je m'imprègne. Ouais.
Donc voilà, et du coup, pour revenir sur des conseils que tu pourrais nous apporter quand on fait une aventure itinérante pour quelques jours, plus précisément, c'est quoi les indispensables qu'on pourrait emporter dans le sac à dos pour un peu d'autonomie, les éléments pratico-pratiques pour le dodo, tout ça?
Alors, la première chose à avoir, c'est une bonne carte. Parce que ça, moi, je suis un peu à l'ancienne et rien ne vaut une bonne carte papier, ouais. Rando, précise. Ouais. Un téléphone, ça se décharge. La batterie, ça peut lâcher parce qu'il fait froid. Et puis, de toute façon, on est là à zoomer, dézoomer avec son téléphone. Enfin, c'est insupportable. La carte, on peut l'étaler. Bon, s'il y a du vent, c'est un peu plus compliqué, j'avoue, mais s'il pleut aussi. Mais voilà, il faut absolument une carte. Je pense qu'il faut savoir lire une carte.
Ouais.
Enfin, je vois ça. Après, c'est... être dogmatique.
C'est un autre rapport au voyage de la
exactement.
Carte.
Exactement. Et puis on se sort du numérique.
Exactement.
Suffisamment tous les jours.
On sort des écrans.
Les écrans, en général, d'ailleurs le téléphone, moi je le mets en mode avion. Et puis voilà. Donc la carte, c'est super important. Savoir un minimum s'orienter, etc. Il ne faut pas commencer sur des trucs trop violents. Il faut commencer même 2 jours de marche avec une petite nuit quelque part, seul ou en groupe.
Un petit GR.
Moi j'ai commencé le bivouac en groupe avant de me dire allez je pars tout seul marcher une semaine. Donc il faut y aller à son rythme, ne pas brusquer les choses, ne pas faire comme j'ai fait la première fois, me cramer le pied parce que je faisais des étapes beaucoup trop longues avec un sac beaucoup trop lourd. Et donc sur le sac, ben, si on veut être en autonomie, ben, il faut une tente qui soit assez légère. Après, chacun met son niveau de confort où il veut. Il y en a qui n'ont pas d'oreiller, il y en a qui aiment les oreillers, il y en a qui dorment sur des petits tapis de sol, rien du tout. Il y en a qui leur faut leur matelas un peu gonflant. Ça, c'est l'appréciation personnelle. Il ne faut pas hésiter à passer des nuits en tente avant, dans un cadre plus tranquille, pour voir comment on tient ça, quoi. Après, évidemment, il faut de l'eau, il faut un minimum de nourriture, prévoir des coups de barre. Hypoglycémie, ça peut arriver.
Ouais.
Toujours avoir un petit truc à manger,
quelque
chose qui requinque. Voilà, avoir envie. Si on a envie, ça vient. Faut pas se forcer, quoi. Moi, ça m'arrive de pas avoir envie de marcher. Hein. Ça arrive à tout le monde et dire bah non, mais je vais pas y aller en fait. Faut que ça apparaisse excitant et pas juste flippant.
Oui, puis relativiser s'il y a peut-être un manque de confort pour une nuit ou deux,
voilà,
on s'en remet, quoi.
C'est pas
puis
grave.
On fera mieux la prochaine fois.
On dormira très bien la nuit suivante parce qu'on a très mal dormi la première nuit. Et aussi, se prévoir des. Comment dire, rentrer plus tôt, c'est pas grave.
T'as une boussole, des jumelles, des petits.
Ni boussole, ni jumelles. J'aimerais bien avoir une boussole d'ailleurs, c'était une idée que j'avais eue.
Ouais.
En fait, c'est plutôt utile si on a des problèmes de brouillard et autres
orientations.
Après, selon on randonne, par exemple, dans la région, le pic Saint-Loup, c'est un excellent repère
pour savoir où on est. Ou des
sommets, des choses comme ça. J'ai pas de boussole et j'ai pas de jumelles. Par contre, j'ai mon appareil photo. Qui pèse lourd, mais que je tiens absolument à prendre. Voilà.
C'est le compagnon de voyage.
C'est le compagnon de voyage. Ça permet de voyager quand on voyage seul, de prendre le temps de faire des photos sans embêter personne. Quand on est en groupe, souvent, y a la pression du groupe qui fait qu'on va pas rester une heure quelque part.
Ouais.
Les gens ils nous attendent. Quoi. Voilà. Et sinon, je me demande est-ce que j'ai un autre conseil à viser à donner.
Un petit kawé, peut-être quand même.
Alors, la cape de pluie, c'est bien.
Cape de pluie.
Surtout.
Pour le sac.
Je conseille d'ailleurs de savoir la mettre. Parce que moi, j'ai acheté une cape de pluie et je savais pas la mettre. Et je me suis pris un ourage et du coup, je me suis retrouvé trempé le temps de comprendre comment on la mettait. Parce qu'en fait, donc ça servait à rien. C'est pas grave. Du coup, attention à ça quand même. Et un bouquin aussi.
Ouais.
Un petit bouquin. Quelque chose à lire ou un cahier pour écrire.
Ouais.
Ça, je faisais souvent, d'écrire le soir. Si on a l'énergie et écrire dans une tente, c'est pas forcément très agréable. On n'a pas de table. Mais bon, ça permet de tenir un journal du voyage et de s'y replonger ensuite. Et puis voilà, il y a à son rythme, quoi.
Ouais.
Voilà. Il n'y a pas de. Même 2 jours, quand on n'a jamais fait de randonnée, ça peut paraître un voyage.
Mm-hmm.
Parce que le temps s'arrête. Enfin, le temps s'arrête. Le temps est très lent. Tout est différent. On se coupe complètement du quotidien. Et on rentre, on a l'impression d'être parti une semaine. Mm-hmm. Voilà.
Bon, c'est cool. Merci, Julien.
Merci.
Pour ce partage.